Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Nous lirons dans Matthieu au chapitre 21. Matthieu au chapitre 21 à partir du verset 28. Nous lisons ceci. Qu'en pensez-vous? Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et y alla. Il s'adressa alors au second et donna le même ordre. Celui-ci répondit, je veux bien, Seigneur. Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, les péagers et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les péagers et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Nous avons ici encore une histoire. Une histoire, un message, une prédication de Jésus sous la forme d'une parabole. Depuis déjà plusieurs mois, plusieurs dimanches, nous nous penchons sur ces paraboles de Jésus, sur cet enseignement de Jésus. C'est merveilleux et nous y puisons des merveilles. Ici, j'aimerais vous parler des deux fils. Vous vous souvenez, avant que nous vous quittions pour un mois, nous nous sommes arrêtés pendant 4 dimanches de suite sur Luc chapitre 15. Et nous avons vu cet enseignement systématique de Jésus sur la brebis perdue, la pièce perdue, le fils perdu, les fils perdus, je devrais dire. Et comme Jésus a insisté en enseignant ces différents aspects de la perdition, des âmes, ceux qui se perdent par stupidité, comme la brebis, qui veut toujours aller au-delà de ce qui lui est offert, pensant toujours que ce qui est là-bas est meilleur que ce qui est ici, et qui ainsi, par bêtise, par insoumission, s'égare du troupeau. Mais le divin berger ne laisse pas sa brebis se perdre, malgré sa stupidité et sa désobéissance. Mais il laisse les 99 dans le désert et il s'en va chercher celle qui est perdue là-bas, quelque part dans un buisson épineux au bord d'un précipice, en train de bêler, de se lamenter. Oh, la bonté du divin berger! Et puis, de cette pièce qui est une chose qui n'a pas de choix, mais qui est une valeur, cette valeur qui a été mal maîtrisée, cette valeur qui a été perdue simplement à cause de l'inconséquence de celui qui en avait l'autorité. Et nous en avons tiré des leçons pour nous tous. Et enfin, ce fils qui, par sa propre volonté, par son propre choix délibéré, s'est égaré, et a pris une partie des biens qui lui revenaient pour faire sa propre vie comme il l'entendait, fuyant l'autorité du Père. Et voilà, il en a porté les conséquences, nu, pauvre, en haillons. Il est revenu à la maison du Père et le Père l'a reçu comme son fils et l'a revêtu et lui a pardonné. Mais l'autre fils, lui qui était resté à la maison du Père, jaloux, propre juste, manquant d'amour pour le perdu, a refusé de venir et de rentrer, de se réjouir. Il s'est exclu lui-même. Nous ne pouvons cesser de parler, de reparler encore de ces enseignements du Maître, qui pour nous sont autant d'avertissements et de mises en garde. Et là encore, nous voyons cette parabole de deux fils. Cette parabole de deux fils, c'est une histoire simple et directe, qui ne demande pas des multitudes d'explications. Les destinataires de cet enseignement sont faciles à discerner. Quand Jésus dit, les pharisiens et les les publicains, pardon, et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Cette parabole ne s'adresse pas aux païens. Cet enseignement ne s'adresse pas à ceux qui ignorent la vérité et qui n'ont aucune connaissance de la vérité, mais s'adresse justement à ceux qui sont là à l'intérieur, qui connaissent la vérité, qui la connaissent même très bien. Mais Jésus leur dit, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Vous devanceront vous, qui vous, les pharisiens, ceux qui vous suivent, ceux qui ont la connaissance, ceux qui sont là depuis longtemps, mais qui ne savent pas mettre en valeur ce que Dieu leur offre. Vous qui venez à l'église et qui avez une bonne morale, vous qui avez une apparence de piété, vous qui passez des nuits en prière peut-être, à des jeûnes, que sais-je, et qui semblez être parfait dans votre conduite, du moins quand vos frères vous voient, mais qui, dans le fond, êtes des hypocrites. Oh, l'hypocrisie! L'hypocrisie est la sœur du mensonge. L'hypocrite, elle est le frère du menteur. Être hypocrite, c'est vouloir faire apparaître quelque chose qui n'est pas. Et il y en a beaucoup qui sont maîtres dans cet art, qui sont des bluffeurs, qui bluffent. Peut-être vous pouvez bluffer un homme, mais vous ne pouvez pas bluffer Dieu qui connaît, qui voit tout. On s'entoure d'une apparence, d'un certain savoir-faire. On a grandi, on a été là dans l'église depuis tant d'années. Et on connaît tout, on sait ce qu'il faut faire pour plaire à l'autre. Mais nous oublions que le véritable berger de l'église n'est pas un homme, mais c'est celui qui a donné sa vie pour la rançon et le rachat de tous et qui connaît les cœurs. Cet homme a deux fils. Cet homme, nous pouvons le comparer à Dieu. Dieu, avec deux catégories d'enfants, deux fils. Bien souvent, lorsque nous parlons de Dieu, nous entourons Dieu de tellement de mystères. De tellement de mystères et de titres et d'attributs. Tous ces titres, tous ces attributs sont tout à fait valables. J'allais dire tout à fait théologiques, fondamentaux. Mais à force de mettre en avant ces titres, Dieu nous devient comme, pour ainsi dire, inaccessible. Il devient, pour ainsi dire, quelque chose de compliqué. Nous parlons d'un Dieu omnipotent, d'un Dieu omniprésent, d'un Dieu éternel, l'éternel des armées. Dieu l'éternel, sans commencement, ni sans fin. Nous énonçons toutes ces vérités bibliques, fondamentales, vraies. Dieu qui remplit tout l'univers, Dieu qui est partout à la fois, tout en même temps, et Dieu qui connaît chaque individu personnellement. Le Dieu créateur, toutes ces choses que nous disons de Dieu, et combien plus encore que ce que je vous dis maintenant, sont réelles, sont fondamentales, sont bibliques. Et du reste, dans une école de théologie, une école biblique, on vous parle de Dieu, on vous explique avec des mots purement humains ce que Dieu est, ce qu'il représente, on vous donne même des significations dans des langues originales, etc., etc. Et notre pauvre petit cerveau essaye d'assimiler ça. Et pour finir, Dieu nous paraît comme quelque chose d'inaccessible, de tellement grand. Comment peut-il penser à moi? Tout cela est vrai. Tous ces qualificatifs, tous ces titres, toutes ces choses le concernant sont vraies, elles sont bibliques. Mais nous le rendons si inaccessible, si grand, si puissant, si éloigné pour ainsi dire. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu dans le monde. Car quand Jésus est venu, il était vraiment homme. Mais quand Jésus est venu, il était aussi vraiment Dieu. Dieu mis à notre échelle. Alléluia. Dieu dans toute la simplicité de l'humanité. Dieu dans un corps de chair. Jésus ramène le tout à une merveilleuse simplicité. Oh, j'aime la simplicité de Jésus. J'aime la théologie de Jésus, s'il faut employer des termes des termes un peu comme cela. Oui, j'aime sa théologie, Jésus. Elle était simple. N'était-il pas le plus grand théologien, le plus grand prédicateur, le plus grand docteur des Écritures, Jésus? Mais quelle simplicité n'a-t-il pas manifesté envers ses auditeurs, envers ses disciples? Jésus a donné des définitions de Dieu qui vous déconcertent dans leur simplicité, mais qui vous émerveillent dans leur grandeur. Dans Matthieu chapitre 6, verset 9, il disait ceci, « Voici comment vous devez prier. » Et il commence, « Notre Père, alléluia, notre Père, simple, pas vrai ? » Ce n'est pas cette prière qui va dire, « Ô Père éternel, Dieu des armées, omnipotent, omniprésent. » Bon, là, 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 là. Je sais très bien qu'il y en a certains qui veulent faire un petit effet, certaines fois, devant des auditoires, pour montrer et démontrer leurs connaissances, et qui vont sortir ce vocabulaire chatoyant qui passe au-dessus des têtes. Non, non, n'oublions jamais la simplicité de Jésus. Mais la simplicité, une simplicité profonde et merveilleuse. Voici comment vous devez prier. Notre Père, ce nom de Père a en lui-même tout le respect, toute la révérence qui est due à Dieu. Sans enlever le mystère, la grandeur, la puissance du divin. Père, j'aime l'appeler Père, plus que de l'appeler omniprésent, éternel des armées, et tout ce qu'on peut dire. J'aime l'appeler Père, parce que quand je l'appelle Père, il est à mon niveau. Il est à mon niveau. Et quand je lui dis Père, ceci veut dire une autre chose qui m'émerveille. Je suis son enfant. Je suis son enfant. Du reste, Jésus avait bien dit ici-bas sur la terre, il avait bien averti, n'appelez personne sur la terre Père, dit-il, dans le sens spirituel, bien sûr. Nous pouvons appeler celui qui nous a mis au monde Père, dans le sens physique. Mais nous n'avons qu'un seul Père. Je sais que dans notre culture, ici au Congo, n'est-ce pas, nous appelons Père, l'oncle, grand-oncle, etc., etc. Mais ceci est faux, archi-faux. Le Père, c'est celui qui vous a engendré. Et personne n'en a deux. Nous n'en avons qu'un seul. Il vit encore ou il est mort. S'il est mort, je n'ai plus mon Père. Mon oncle n'est pas mon Père. Mon Père, c'est celui qui m'a engendré. N'appelez personne sur la terre Père, dit-il. Dans le sens spirituel, bien sûr. Car un seul est votre Père. Un seul est votre Père. Comme je n'ai qu'un Père dans la chair qui m'a engendré, qui m'a mis dans ce monde, ainsi je n'ai qu'un Père dans le sens spirituel. Même celui qui m'a amené au Seigneur, il est celui qui m'a amené au Seigneur, c'est vrai. Mais il n'est pas mon Père. Mon Père, c'est celui qui m'a donné la vie, cette vie spirituelle. Il n'a été qu'un moyen. Il n'était qu'un instrument, il était un ouvrier dans la vigne, c'est tout. Ce nom de Père le met à notre portée. Merveilleux. Dieu est ramené à ma portée. Et l'Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, enfants du Père. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, c'est-à-dire enfants du Père. Merveilleux. Si j'ai un Père, c'est qu'il m'a engendré. Il m'a donné la vie par la nouvelle naissance. Et il nous aime d'un amour profond qu'aucun humain n'est capable d'exprimer. Un amour immense que je ne peux trouver ici-bas sur la terre. Jésus n'a pas donné de description théologique de Dieu, accompagné de mots compliqués et de définitions savantes. Mais il en a donné des images qui sont combien de fois plus éloquentes que toutes les descriptions dites théologiques, savantes, qu'on pourrait donner. Dans les descriptions de Jésus, nous voyons qu'il compare Dieu à un jardinier. Ça, c'est très simple et très populaire. Et quelle signification ! Il compare Dieu à un berger, à un gardien de troupeau. Et il le compare à un père, un père qui a une famille, qui a engendré des enfants. Ce sont des concepts simples et accessibles. Frères et sœurs, qu'entre la religion ou la foi s'écarte de la simplicité de Jésus, elle tombe dans les ténèbres. Dans les ténèbres de la théorie cérébrale, intellectuelle, mais qui apporte rien au cœur. Dieu le Père, tout ça pour vous dire que dans cette parabole, il y a le concept de Père, et il y a le concept de Fils. Des fils qu'il a engendrés. Dieu le Père a deux fils. Deux fils de deux catégories différentes. Il a deux catégories d'enfants, Dieu. Ce sont ses enfants. Ce sont des hommes qui ont cru, qui se sont laissés attirer par l'évangile de la vérité, qui ont donc passé par la nouvelle naissance. Il leur demande un travail. Quel est le père qui, ayant des fils en bonne santé, ne leur demande pas un service? Où est-il ce père? Je ne le connais pas. Il a des enfants, il a des fils en bonne santé. Il a des terres, il a des vignes, il a des champs. Et il leur donne un ordre. Voilà. Travaillez. Allez travailler dans ma vigne. Allez travailler. C'est simple. Le religieux qui va à l'église répond, « Je veux bien, Seigneur. » Oh, il est bien éduqué celui-là, il est poli. « Seigneur, comprenez cela comme monsieur. » Vous savez que monsieur veut dire « mon Seigneur ». C'est la contraction de « mon Seigneur » en langue française. Quand vous dites « bonjour, monsieur », vous dites « bonjour, mon Seigneur ». On a contracté ça et ça fait « Monsieur, mon sieur, comme vous écrivez, n'est-ce pas? C'est-à-dire mon seigneur. Celui-ci, il est très poli. Il ne refuse pas. Je veux bien, Seigneur, avec respect, il dit à son père. Je veux bien. Tu peux dépendre de moi. Je vais faire ce que tu m'as dit de faire. Les autres, non religieux, un peu brut sur les bords, les publicains, les prostituées, les gens qui n'ont pas trop de morale, du reste, qui n'ont même pas d'éducation, ils sortent de quel milieu ceux-là? Ils ne savent même pas se tenir ou parler poliment. Il n'y a qu'à les voir quand ils s'adressent à quelqu'un. Ils disent, hey, yo, yo! Pas de politesse, rien. On peut peut-être dire des brutes, c'est vrai, c'est vrai. Les hors-classe, les brigands, les violents, ils sont dans nos rues. Du reste, beaucoup sont là avec des armes cachées et ils s'en vont piller des maisons pendant la nuit. Ils jettent du trouble. J'avais pitié de cet homme qu'on a montré à la télévision hier. Une tête de brute, franchement. Vous l'avez bien regardé? Il tenait son arme, là, il avait été attrapé. Dès l'instant où il peut fuir, il fuira. Ça, c'est clair. Quant à recommencer, pourquoi pas? Voilà, des gens que nous considérons comme, pour ainsi dire, irrécupérables, des hors-castes. Qu'est-ce qu'ils répondent, ceux-ci? Je ne veux pas, pas de formule de politesse, rien. Simplement, un langage assez dur, tranchant. Non, je refuse. Pour eux, il n'y a pas de formule de politesse. La réponse est tranchante, c'est le refus. Courte, insolente, voilà leur réponse. Mais les bons religieux, les polis, ne vont pas et n'obéissent pas au commandement du Père. Alors que les hors-castes, lorsque touchés par l'Évangile, lorsque attirés par la parole annoncée, lorsque touchés par la grâce, ces hors-castes, encore rudes, pas plus poli qu'avant, mais touchés par la grâce, obéissent et font le travail commandé. C'est à notre honte que le Seigneur dit cela. Combien d'entre nous, nous sommes dans l'Église pendant longtemps, pendant des années. Nous connaissons la vérité qui nous est annoncée. Nous passons des nuits en prière, et nous avons notre Bible sous le bras et nous passons pour être des gens bien. Combien de fois nous avons dit au Père, oui, j'irai, oui, je ferai, oui, je donnerai. Mais nous n'avons pas tenu nos engagements, alors que les nouveaux venus, encore bruts, les nouveaux venus, encore à éduquer sous bien des aspects, mais enthousiastes, quand ils entendent le commandement, ils disent, d'abord, c'est pas pour moi, non, que l'autre y aille. Et après, ils se disent, mais pourquoi pas, je veux faire le travail, la demande est raisonnable. La question qui suit est aussi simple. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Le mot-clé ici, c'est faire. Voilà ce que Dieu veut. Des actions plus que des paroles. Combien d'hommes et de femmes se contentent de paroles, de blablabla? Les paroles n'accomplissent rien. N'avons-nous pas eu beaucoup de paroles dans notre pays? De paroles de différents mouvements politiques et d'idéologies de tout genre qui se transformaient par des colloques, par des... Tous les mots savants qu'on peut adresser, des conférences, des... Je sais pas. Paroles, à tel point que la télévision vous lassait. Il n'y avait que ça. Et la réalité était une ruine complète, économique, morale, politique, sociale de notre pays. La parole ne change rien. Il faut l'action. Et il y a déjà longtemps que Dieu a préconisé cela. L'action plus que la parole. Frères et sœurs, la parole est nécessaire. Et vous allez me dire, mais vous, pasteur, est-ce que vous ne parlez pas pendant presque une heure tous les dimanches? C'est vrai. Mes frères et sœurs, si je parle, c'est pour faire connaître la volonté de Dieu, afin qu'après l'avoir connue, nous agissions en conséquence, en commençant par moi qui vous parle. À quoi cela sert-il de déclamer du haut d'une estrade, si ces paroles ne sont pas mises en action? Les discours peuvent être excellents, mais ils ne servent à rien s'ils ne sont pas accompagnés d'action. On peut prêcher bien dans une église, mais si l'action ne suit pas, ces discours sont vains. Elles ne servent qu'à nous condamner parce que tu savais, mais tu n'as pas agi en conséquence. Avec Dieu, il n'y a pas de paroles vaines. Avec lui, pas de flou, pas d'imprécision. Tout est clair, tout est précis. On sait où on va, on sait ce qu'il veut. Et il dit à ces Juifs auxquels il s'adresse, « Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. » C'est comme si Jésus disait, « Je ne vous juge pas pour votre attitude envers moi. Moi, vous ne m'acceptez pas. Je vous enseigne des choses qui sont nouvelles pour vous. » Et automatiquement, comme c'est nouveau, vous les rejetez. Mais Jean, votre attitude envers Jean, il vous enseignait, et c'était un bon enseignement. La voie qu'il vous a prêchée, c'était une voie, la voie de la justice. Son message était pur, son message était justice, son message était lumière, pas d'innovation. Il a parlé du jeûne, il a respecté le sabbat, comme vous. M'accuser de ne pas le faire. Vous m'accusez de ne pas respecter le sabbat. Mais Jean, il a fait tout ce que vous préconisez, selon vos normes. Mais vous n'avez pas cru en lui. Par votre attitude, vous dites à Dieu, qui vous a appelé par Jean, « Je veux bien, Seigneur. » Oui, Seigneur, d'accord, je veux bien. Mais vous vous arrêtez là. Vous avez la réponse. Vous sentez ce qui est juste, mais vous n'agissez pas. Vous êtes averti, mais vous n'agissez pas en conséquence. Pourquoi? Par lâcheté, peut-être, par négligence, ou alors serait-ce par paresse ou crainte des conséquences à cause du prix qu'il y a à payer pour la vérité. Tous ne l'acceptent pas, la vérité. Alors, vous fermez la bouche. Lorsque vous êtes réunis ensemble dans la maison de Dieu, vous semblez tous adhérer à la parole annoncée. Vous semblez tous vouloir vous soumettre à cette parole. Vous semblez tous vouloir marcher selon cette parole. Votre attitude laisse croire. Vous êtes attentifs. Vous chantez et vous priez. Mais une fois que vous êtes hors de ce lieu de prière, lorsque vous êtes dans le monde, lorsque vous êtes au bureau, lorsque vous êtes au marché, là vous fermez votre bouche, là votre attitude est différente. Vous faites comme tout le monde. Remarquez la réflexion à laquelle le Seigneur nous appelle. Lorsqu'il commence l'énoncé de cette parabole, il pose la question et il dit, « Qu'en pensez-vous ? » Un homme avait deux fils. « Qu'en pensez-vous ? » Ce que le Seigneur cherche à faire, c'est d'attirer notre attention et nous appeler à une décision personnelle. Le Seigneur n'agit pas sur la masse, il agit sur l'individu. Et il s'occupe de l'individu. Il nous appelle à la réflexion. Tellement de fois dans notre monde d'aujourd'hui, nous devenons des robots. N'est-il pas vrai? Nous suivons l'idéologie. Nous suivons le mouvement. Nous suivons la mode. Nous faisons ce que la masse fait. Or, ceci ne peut plaire à Dieu. Dieu n'agit pas sur la masse, il agit sur l'individu. 1000 individus, il s'occupe de chacun d'eux personnellement. Et ces 1000 individus font une masse, c'est vrai, mais Dieu s'occupe de chacun d'eux personnellement. Moi, pauvre petit moi, je vous prêche à vous tous, et je vois devant moi une masse d'hommes et de femmes, et je ne connais même pas leur nom, ni leur histoire, ni quoi que ce soit. Je suis limité, mais Dieu n'est pas limité. Il connaît les besoins de chacun, il s'occupe des besoins de chacun, il voit les problèmes de chacun, et il voit les chutes de chacun, et il traite les problèmes sur un plan individuel. Sa parole est annoncée et celui qui apporte cette parole ne connaît pas les secrets des cœurs. Mais dans cette parole qui est inspirée par Dieu, il y a quelque chose pour celui-ci, il y a quelque chose pour celui-là, il y a quelque chose pour celle-ci, il y a quelque chose pour celle-là. Et c'est ça le miracle. Ce miracle n'est pas l'homme, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu et c'est l'Esprit de Dieu. Beaucoup trop de chrétiens s'adapte à l'esprit du jour, s'adapte à la mode et suivent la masse. Et à cause de cela, ils ne sont pas prêts à payer le prix. Ils font preuve de lâcheté, de négligence et même de paresse. Ils ont deux attitudes, une dans la maison de Dieu, une à l'extérieur. Beaucoup de chrétiens qui devraient prendre position, qui devraient parler, qui devraient se compromettre, qui devraient défendre leur foi, défendre la vérité, affirmer cette vérité, ne font rien. Ils craignent les hommes, ils craignent la famille, ils craignent la société. Oui, Seigneur, j'irai, et le moment venu, rien. Oui, Seigneur, je ferai, le moment venu, on n'agit pas selon ses engagements. On suit la foule. Frères et sœurs, c'est une exhortation que le Seigneur nous adresse. De quelle catégorie d'enfants faites-vous partie? Je ne dis pas que vous devez, comme des propres justes, aller au bureau et commencer à juger tous ceux qui sont là.
Le Seigneur ne vous demande pas immédiatement de condamner votre frère de bureau parce qu'il a 3 femmes et encore des concubines et que vous allez lui dire que c'est un adultère, un débauché. Ce n'est pas ainsi que le Seigneur nous appelle à témoigner. Bien souvent, notre témoignage n'est pas avec des paroles, mais avec une démonstration de vie. Alléluia. Avec une démonstration de vie. On vous offre une cigarette. Vous dites, non, moi je ne veux pas fumer. Je veux vivre plus longtemps que toi. On vous offre à boire de la boisson enivrante. Vous dites, non merci, c'est bien aimable, mais je préfère prendre de l'eau ou bien un sucré. Il n'y a pas besoin de faire un discours, parce que je suis chrétien maintenant, je ne fume pas ou je ne bois pas. Parce que je suis chrétien, moi je n'ai qu'une femme.
On va te dire espèce d'hypocrite, et on aura raison de le dire. Est-ce que tu crois que tu es meilleur que nous? Non, je ne suis pas meilleur que toi, mais la grâce est manifestée en moi. Et parce que cette grâce est manifestée en moi, je veux le démontrer avec plus que des paroles, simplement avec un style de vie du royaume des cieux. Frères et sœurs, c'est ainsi que nous ferons la différence. Mais bien trop souvent, nous voyons des chrétiens qui manquent de sagesse. Et ils donnent l'impression à ceux qui les entourent qu'on les juge. Et alors on dit, oh, cette espèce de gars-là, il veut nous faire croire que, elle veut nous faire croire que, avec ses paroles pieuses et sa Bible sur la table. Écoute, quand tu es au bureau, tu fais ton travail, c'est pas au bureau que tu lis ta Bible à la maison. J'ai entendu des fois des critiques acerbes d'hommes du monde, parce que le chrétien est là, et il est tout en train de nez dans la Bible au lieu de faire son travail. Vous croyez que c'est un témoignage, ça? Non, c'est pas un témoignage. Le témoignage, c'est la fidélité. Le témoignage, c'est la vérité. Le témoignage, c'est un style de vie différent. Le témoignage, c'est un vrai zèle. Et alors, tout le monde va dire, mais dis donc, il est formidable, celui-là. Oh, quel exemple pour nous tous. Et puis, tout d'un coup, quelqu'un va découvrir, oui, c'est un homme de Dieu. Ah, c'est un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est écrit en grosses lettres dans toute sa vie. Alléluia. Et cette vie aura une influence. Oui, Seigneur, j'irai. Et le moment venu, rien, rien. Que dit Jésus? La parabole est abrupte. La parabole est un commandement qui brûle. Il y a urgence. Il y a urgence. Les publicains et les prostituées vont dans le royaume des cieux avant vous. Jésus ne dit pas simplement, vous n'y allez pas. Les publicains, elle est prostituée, ils vont, mais vous n'y allez pas. Il n'a pas dit ça. Mais ils ont dit, ils vont vous précéder. Ils vont gagner. Ils vont recevoir une récompense avant vous. Vous êtes dans l'église depuis longtemps. Vous connaissez la parole de Dieu depuis longtemps. Mais ces derniers venus, ces inéduqués, ces ignorants vont vous devancer. Ces gens que vous considérez comme irrécupérables, que vous méprisez, perdus, sans remède, sont obéissants, sont plus courageux dans leur témoignage une fois que la grâce s'est manifestée en eux, plus dynamiques dans leur vie chrétienne, plus déterminés dans leur travail pour le royaume des cieux, plus persévérants que vous, gens bien, membres d'église depuis longtemps, et d'une morale sans reproche. Ces gens, aussi mauvais que vous les croyez être, entreront avant vous, vous les piliers de l'Église, qui savez et qui connaissez, mais qui ne faites pas. Si vous ne changez pas, vous risquez de ne pas entrer même dans le royaume. Il n'a pas dit vous n'entrerez pas, mais il a dit vous êtes en danger. Voilà. Pour ces pharisiens, c'est comme une insulte que Jésus leur adresse. Ils sont dans la religion depuis le commencement. Ils ont étudié la loi, ils ont étudié les commandements, ils observent les jeûnes, ils observent même au-delà de ce que la loi de Moïse a prescrit. Alors que la loi de Moïse a prescrit un jeûne par an, eux, ils parlent de deux jeûnes par semaine. Quel zèle! Oui, c'est ça. Mais les œuvres, où sont-elles? Ils donnent la dîme de tout, de tout, de tout. Mais ils n'ont pas d'amour pour le prochain. Ces pharisiens, ils entendent cet enseignement comme une insulte. Mais Jésus l'a dit, car il y a urgence et la destinée des hommes dépend de tout cela. On prétend aimer Dieu et on faillit dans ses devoirs et ses actions. Le manque de sincérité, voilà le mal. Le manque de sincérité. Les œuvres ne suivent pas les paroles ou les prières. Les engagements ne sont pas honorés. Je m'en occupe. N'ayez pas de crainte. D'accord, j'irai, je ferai, je prierai, je donnerai. Comptez sur moi. Mais rien, on ne remplit pas ses vœux. Moi-même qui vous parle, combien de fois j'ai été pris au piège, entre guillemets. Bien souvent, lorsque nous partons à l'étranger, et nous parlons dans ces églises, ces nombreuses églises où on nous reçoit, on parle des besoins et des gens touchés dans leur cœur, sous le coup de l'émotion, promettent. Trop de fois, j'ai cru aux promesses. Je me souviens d'une affaire qui m'avait fait passablement de problèmes. Ces gens dans cette église avaient promis d'aider pour l'évangélisation. C'était bien avant que nous ayons la borne. D'aider pour l'évangélisation. Oui, on va vous envoyer une voiture, une Land Rover pour évangéliser. Je rentre ici, je parle à mes frères. Voilà, le Seigneur a pourvu, on nous recevrons. La Land Rover n'est jamais venue. Et qui c'est qui était blâmé? C'est moi. Pourquoi? Parce que j'avais, soi-disant, mangé ou bouffé l'argent pour parler le langage populaire. Depuis, j'ai appris la sagesse. Quand on me donne une promesse, je ferme ma bouche jusqu'à ce que le résultat soit là. Combien de promesses n'ai-je pas entendues qui m'ont réjoui sur le moment, mais j'ai attendu jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai compris qu'il est mieux de se confier dans Dieu qu'en l'homme. Frères et sœurs, n'agissons pas sous le coup de l'émotion en nous engageant dans des voies dans lesquelles nous ne sommes pas sûrs. Et si nous nous engageons, sachons que nous avons une dette. Lequel des deux a fait la volonté du Père, dit Jésus? Le rituel du culte, l'adoration, la piété, tout cela c'est bien, les cantiques, les chants, mais s'il n'y a pas une vie digne derrière, s'il n'y a pas les actions qui accompagnent notre démonstration de foi, nous ne sommes que des menteurs. Dans Michée chapitre 6, versets 6 à 8, il est dit, « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Avec quoi pour effacer mes iniquités et mon crime ?» Me présenterai-je avec des holocaustes en quantité? Me présenterai-je avec le sang des béliers, des boucs? Donnerai-je même mon enfant, celui qui est sorti de mes entrailles? Avec quoi pourrais-je me présenter devant l'Éternel? Au verset 6, au verset 2 du même chapitre, il est dit, l'Éternel a un procès avec son peuple. Avec quoi puis-je? Puis-je le contenter? Vous ne pouvez pas séduire Dieu. Vous ne pouvez pas amadouer Dieu. Vous savez, certaines fois, nous pensons que nous pouvons plus ou moins manipuler Dieu. Si je prie suffisamment, si je fais suffisamment de jeûnes et de nuits de prière, alors Dieu va intervenir. Eh bien non, mes frères. Non, le jeûne, c'est l'humiliation, c'est l'abaissement devant Dieu. La prière, c'est la recherche, la face du Seigneur. Elle est exposée de mes besoins. Mais Dieu, je ne peux le manipuler selon ma guise. Ni par mes offrandes, ni par mes chants, ni par ma musique, ni par la démonstration de mon adoration. Il t'a fait connaître ce qui est bien. Ce qu'il demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Et pratiquer la justice, c'est remplir ses engagements. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Les sacrifices, les prières, les dons, tout cela c'est bien. Mais ce qu'il te demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant lui. Tellement de choses dépendent de ce que nous faisons. L'un dit, je vais, je ferai, mais... Il ne fait rien, et ne va nulle part, et n'accomplit rien du tout. Et à cause de cela, le travail n'est pas fait. Je me souviens qu'autrefois, je me disais, et je prêchais même, que si je suis désobéissant, Dieu ne pourra pas m'employer, et il mettra quelqu'un d'autre à ma place. Mais pas forcément, frères et sœurs. Si celui que Dieu appelle n'accomplit pas la tâche bien souvent ne sera pas accomplie. Et des hommes seront perdus. Dieu n'a pas forcément toujours un homme à remplacer le paresseux qui ne veut pas faire le travail. Non. Il y a des gens qui disent, Dieu se trouvera bien quelqu'un, il n'aura pas besoin de moi, il trouvera bien quelqu'un à prendre ma place. Pas forcément. Je vais, et tu ne vas pas. À cause de cela, le travail n'est pas fait, et tu es responsable des conséquences. L'autre dit, non, ça ne m'intéresse pas, je n'y vais pas. Et il, après réflexion, après avoir été influencé par le Saint-Esprit, il revient en arrière et il fait le travail. L'insolence ne peut être approuvée, l'impolitesse ne peut être acclamée, mais un refus en parole est mieux qu'une fausse piété, une fausse promesse. Gardez-vous de faire des fausses promesses. Des fois, nous avons le langage rapide sous le coup de l'émotion et nous oublions nos engagements, mais Dieu ne les oublie jamais. Le refus clair a au moins le mérite d'être honnête. Et il y a possibilité qu'après réflexion, la décision soit changée en action. Mais l'engagement sans suite est un parjure. L'engagement sans suite est un mensonge, est une déception. Alors attention à votre propre niveau, dans vos familles, quand vous vous êtes engagé, allez jusqu'au bout. Soyez lent à vous engager, mais que tout le monde sache que quand vous vous engagez, c'est pour sûr. Jésus savait que la destinée des hommes dépendait de son enseignement. Il savait que le manque de sincérité peut faire le malheur des autres. On honore Dieu des lèvres et le cœur est éloigné de lui. N'a-t-il pas dit cela à son peuple combien de fois? Qui allait au travers du processus du culte, qui faisait toutes les œuvres demandées et exigées par la loi, mais c'était des lèvres et non du cœur. On honore Dieu des lèvres et le cœur est éloigné de lui. Le manque de sincérité, des paroles et des paroles seulement, c'est déjà de la corruption. C'est déjà du mensonge, c'est déjà la destruction du véritable caractère chrétien. Lequel a fait la volonté du Père, dit Jésus, lequel? Ce qui compte, c'est faire et non dire. Soyez sobre en parole, mais soyez généreux en action. Nous disons, sous le coup de l'émotion, j'irai. Mais Jésus nous avertit que l'émotion qui dit « j'irai » doit être immédiatement accompagné d'œuvres et d'actions. Immédiatement. Nous sommes sous le coup de l'émotion lorsque nous entendons la parole de Dieu. Immédiatement, il y a une réaction dans notre cœur. Oui, c'est vrai. Oui, je vais faire. Oui, c'est une lumière qui m'est communiquée de Dieu. Oui, c'est vrai, il y a l'enthousiasme. D'accord. Il n'est pas mal d'être motivé par l'émotion. Mais l'émotion passe vite. C'est pour cela, agissons immédiatement. Immédiatement. Car le commandement est, va travailler aujourd'hui. Pas demain, pas dans un mois, mais aujourd'hui. Il ne demande pas de nous une promesse pour demain. Dans Jean chapitre 9, verset 4, il est dit, il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Que je fasse aujourd'hui, pas demain, dans Hébreux 4, 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, maintenant, dans 2 Corinthiens 6, 4. Voici maintenant le jour du salut. Pas demain, pas après-demain, mais maintenant. Il y a tant d'adoration qui ne trouve pas de réalité dans les œuvres. Notre adoration que nous exprimons tous les dimanches par les cantiques, par les prières, par la musique, cette adoration aura sa véritable signification lorsqu'elle est accompagnée d'œuvres pendant toute la semaine. Et cette adoration ira tout droit au trône de la grâce. Nos œuvres doivent être un sacrifice de louange. Pas un rituel, non, mais des œuvres. Pour Jésus, l'adoration et la conduite, c'est-à-dire les œuvres, sont intimement liées. Va travailler. travailler dans ma vigne. Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Vos paroles et vos prières sont bonnes, mais vos œuvres sont nulles. Votre religion, votre foi n'est qu'une façade, une apparence, sans œuvres qui les accompagnent. Plus d'action et moins de paroles. Ton Père te dit, va dans ma vigne, travaille pour moi. Dans la vigne, il y a beaucoup de choses à faire. Bien sûr, il y a ceux qui prennent les fruits au moment de la vendange, mais avant la vendange, il faut remuer la terre, il faut planter. Et une fois que la plante sort du sol, il faut l'étayer, il faut mettre des supports pour que les branches puissent s'accrocher avec les vrilles du raisin à tous les fils qu'on va mettre là. Cela représente beaucoup de travail. Il faut ensuite qu'on lutte contre les parasites, qu'on passe avec l'insecticide. Autrement dit, il n'y a pas que la vendange et la récolte du fruit. Il y a toutes sortes de travaux sans qu'on voit l'immédiat résultat. Et c'est ça que beaucoup d'hommes et de femmes refusent, de travailler sans en avoir la gloire. On préfère avoir la vendange, on préfère venir avec les fruits, mais il n'y a pas de fruits sans travail au préalable, sans années pénibles certaines fois, de labourage, de peine, de souffrance, de rejet, d'incompréhension, et quoi encore? Mais là est la volonté du Père. Va dans ma vigne! Certaines personnes voient certaines fois des serviteurs de Dieu avoir un grand succès dans leur ministère, mais ils ne savent pas les années de désert qu'il y a eu avant. Ils ne savent pas les larmes qui ont été versées. Ils ne savent pas comme ils ont dû labourer la terre, comme ils ont été rejetés, comme ils ont été bafoués, mais ils ont continué et ils ont travaillé. Et s'il y a le fruit aujourd'hui, c'est parce que le plan a été planté là où Dieu l'a dit et parce qu'ils ont obéi. Va travailler dans ma vigne. Sa vigne, toutes les activités qui contribuent au salut des perdus doivent être accomplies et chacun a sa tâche. Et il te dit à toi aussi, de quelle catégorie es-tu de mes enfants? De ceux qui disent, oui, Seigneur, j'irai et qui ne font rien? Ou de ceux qui peut-être, têtus comme ils sont, voulant faire leur propre volonté dans un premier temps, un peu mal éduqués, vont dire, non, ça ne m'intéresse pas. Mais la parole, le Saint-Esprit travaillant, il se retourne, et sans rien dire, il travaille, et le fruit est là. Voilà ce que le maître veut voir. Il veut voir le fruit, il veut voir le résultat, il veut voir les œuvres dans sa vigne, baissant la tête. Père, nous te remercions, car encore tu nous enseignes. Et encore, Seigneur, tu nous amènes à faire un examen de nous-mêmes. De quelle catégorie d'enfants faisons-nous partie? Faisons-nous partie de ceux qui s'engagent sur le coup de l'émotion, de ceux qui sont dans ton église depuis longtemps et qui savent comment se tenir, et qui sont bien polis et qui promettent, mais qui ne font rien? Par paresse, par négligence, par honte, par refus de porter l'opprobre. Où sommes-nous de ceux qui, peut-être mal élevés, venant d'un milieu rustre, refusent, et puis après se soumettent et travaillent? Quelle catégorie, dans quelle catégorie sommes-nous? Ô Seigneur, bien souvent parmi nous, certains vont être dépassés par les brigands, par les voleurs, dépassés par les prostituées et les immoraux, et les abjects et les mal éduqués. Dépassés. Ce que tu demandes, ce sont des œuvres. Aide-nous à nous examiner encore devant toi. Et cet appel s'adresse à nous tous. Où en sommes-nous? Toi, mon frère, toi, ma sœur, le Seigneur te dit, va travailler dans ma vigne. Veux-tu travailler dans sa vigne? Peut-être sous le coup de l'émotion, tu vas te lever maintenant. Alors lève-toi, Veux-tu travailler dans sa vigne? Si tu le veux, lève-toi là où tu vas, là où tu es. Mais souviens-toi que si tu te lèves, ce qu'il demande aujourd'hui même, ce sont des actions. Car ton engagement, alors, risque d'être un mensonge. Veux-tu travailler dans sa vigne? Veux-tu travailler dans sa vigne? Il te dit, va! Il te dit, va travailler! Va! Fais quelque chose, il y a quelque chose à faire pour toi.